France Inter.
Il est 19h sur France Inter. Un point sur les informations avec Éric Delvaux. Bonsoir.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, un acte terroriste islamiste sans aucun doute, selon Emmanuel Macron. Après l'attaque au couteau cet après-midi à Mulhouse, il y a un mort, 3 policiers municipaux blessés, dont un grièvement. Le président Macron écourte sa visite au salon de l'agriculture. À la une également, fin de cavale pour le narcotrafiquant français Mohamed Amra, en fuite depuis qu'un commando armé l'avait libéré il y a 9 mois en tuant 2 surveillants. Il a donc été arrêté aujourd'hui en Roumanie. Nous serons dans ce journal en direct en Allemagne, en cette veille d'élections législatives, avec une campagne marquée par les questions sécuritaires. En direct également à Jérusalem pour tenter de comprendre le retard ce soir dans la libération de 602 prisonniers palestiniens en échange des 6 otages israéliens libérés ce matin. Dans ce journal également, une airbag gate qui se profile dans le parc automobile européen. Et puis la fin annoncée du mensuel satirique Ciné-mensuel, dernier numéro prévu le 5 mars. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, ce sera un peu plus calme.
Oui, on peut dire que ce sera une journée de transition entre 2 perturbations avec un temps plus sec et pas mal de grisailles quand même le matin.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
Concentre.
Un mort donc à Mulhouse lors d'une attaque au couteau cet après-midi. 3 policiers municipaux blessés dont l'un grièvement. L'agresseur présumé a été arrêté. Il est connu pour être fiché pour radicalisation à caractère terroriste. Caroline Félix, le parquet national antiterroriste est saisi.
Oui, la personne tuée était un Portugais âgé de 69 ans. Il a tenté d'arrêter l'agresseur qui s'en prenait à des policiers municipaux avec son couteau en criant « Allah Akbar ». 3 policiers municipaux seraient aussi blessés d'après le parquet national antiterroriste, le PNAT. L'un d'eux présente un pronostic vital engagé, selon la police. L'attaque a eu lieu vers 15h40 en marge d'une manifestation de soutien au Congo, près d'un marché du centre de Mulhouse. L'agresseur a été interpellé quelques rues plus loin. Il est en garde à vue. Il a 37 ans. Il est fiché pour prévention du terrorisme. Le PNAT ouvre d'ailleurs une enquête en flagrance pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé en marge du salon de l'agriculture et il rappelle la détermination du gouvernement de continuer le travail pour éradiquer le terrorisme. Nous sommes en deuil, dit quant à lui François Bayrou ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, va se rendre sur place dans la soirée, va prendre la parole dans une heure.
Et Emmanuel Macron, donc, écourte sa visite au salon de l'agriculture et il évoque ce soir un acte terroriste islamiste.
J'ai eu un instant le ministre de l'Intérieur qui m'a rapporté les principaux éléments qui étaient en sa connaissance. Le procureur s'est saisi et le PNAT s'est donc saisi, qualifiant ainsi cet acte d'acte terroriste. Il ne fait donc pas de doute d'acte terroriste islamiste compte tenu de l'expression du terroriste. Et je veux dire ici donc à nouveau la solidarité de la nation à l'égard de la famille et la détermination du gouvernement et la mienne de continuer le travail qui est le nôtre depuis 8 ans pour tout faire afin d'éradiquer le terrorisme sur notre sol. Je ne veux pas ici en dire davantage parce que c'est au ministre de donner les éléments, mais la détermination est complète et au-delà de ce qui a été fait, nous prendrons évidemment tout acte utile pour répondre à ce qui vient de se passer.
Voilà donc pour les premiers éléments de cette attaque au couteau. Cet après-midi à Mulhouse, il y a un mort donc et 3 policiers municipaux blessés, dont l'un grièvement. Le pronostic vital est engagé. À la une également, cette cavale qui aura duré près de 9 mois. Mohamed Amra était devenu l'ennemi public numéro 1 depuis sa sanglante évasion lors d'un transfèrement entre sa prison et le tribunal de Rouen. Un commando armé avait tué 2 surveillants du fourgon et blessé grièvement 3 autres à un péage de Normandie. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Eh bien, ce narcotrafiquant français vient donc d'être arrêté en Roumanie.
Ce que l'on sait de l'arrestation de Mohamed Amra, c'est que les policiers roumains ont attendu que le fugitif sorte d'un taxi pour l'interpeller devant un centre commercial dans le centre de Bucarest, la capitale roumaine. Cela faisait près d'un mois qu'il avait été repéré, nous confiait tout à l'heure une source proche de cette affaire, même s'il avait teint ses cheveux roux, portant des lunettes. Mohamed Amra faisait l'objet d'une fiche rouge rouge Interpol. Sa photo, diffusée à toutes les polices de la planète, on ne sait pas pour l'instant s'il a été repéré par les services de renseignement roumains grâce à cette notice rouge ou par les enquêteurs de l'OCLO, l'Office central de lutte contre le crime organisé qui surveillait tout son entourage, des enquêteurs qui traquent également depuis plus de 9 mois les autres complices de Mohamed Amra, 4 hommes dont les tireurs, ceux qui ont abattu froidement les 2 agents de la pénitentiaire et blessé 3 autres, vous l'avez dit. 300 enquêteurs au total ont été mobilisés pour retrouver ces criminels après l'attaque au péage autoroutier d'Incarville.
Emmanuel Leclerc, avec une réaction ce soir, celle de Dominique Garcia. Étendez l'oreille parce que la liaison n'est pas très bonne. Dominique Garcia est le père d'un des 2 agents pénitentiaires tués lors de l'évasion de Mohamed Amra en mai dernier.
Il a été l'investigateur d'un assassinat, mon fils est mort, il devra prendre conscience jusqu'à la fin de sa vie, ça c'est sûr. Maintenant qu'ils sont en prison, ça ne me dérange pas du tout, ah, c'est sa place. Qu'il aille croupir là-bas, ça ne me dérange pas non plus. Que justice soit faite, qu'il reconnaît les faits, et que derrière ça, il y a une petite fille qui comprenne que qui a tué son papa, quoi. À cause de lui et de ses collègues, qu'elle ne connaîtra jamais son père. Donc c'est ça que je veux. Ça, c'est une justice morale pour nous.
Voilà, propos recueillis par Ici Normandie. Emmanuel Macron s'est félicité de l'arrestation de Mohamed Amra. Le chef de l'État a donc écourté sa visite il y a quelques minutes au Salon de l'Agriculture. Depuis ce matin, il a tenté de rassurer le monde paysan, toujours inquiet pour son avenir. 600 000 visiteurs sont attendus cette année durant cette grosse semaine du Salon agricole.
France Inter, Éric Delvaux.
Il y avait du retard ce matin de la part du Hamas au moment de libérer 6 otages israéliens. Ils ont finalement été libérés. Eh bien, il y a encore du retard ce soir pour libérer en échange 602 prisonniers palestiniens. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem, RFI pour France Inter. Bonsoir Michel.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Mais donc, pourquoi autant de retard ce soir pour libérer les centaines de prisonniers palestiniens ?
Eh bien écoutez, ces 602 prisonniers palestiniens attendent donc toujours d'être remis en liberté. Une centaine d'entre eux sont des condamnés à des peines de prison à vie. Mais ce qui est surtout important pour le Hamas, c'est la libération de 41 d'entre eux, libérés une première fois en 2011 dans le cadre de l'échange avec Gilad Shalit et qui ont été réincarcérés depuis. Alors on indique que la libération a été repoussée à plus tard ce soir. Et ce pourrait être une des conséquences de la colère provoquée par la saga de la restitution du corps de Shiri Bibas. Les familles d'otages appellent ce soir, en tout cas le gouvernement israélien, à accepter l'offre du Hamas de libérer tous les otages restants d'un seul coup dans le cadre de la phase 2 de l'accord. Le Premier ministre Netanyahou tient en ce moment même une consultation sécuritaire pour envisager la suite, la prolongation de la trêve ou alors le retour au combat.
Jérusalem, donc, correspondance en direct de Michel Paul. Hier soir, après plusieurs heures de confusion, c'est bien la dépouille de Shiri Bibas qui a donc été restituée à la famille. Cette femme avait été enlevée le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël avec ses 2 fils, Ariel et Kfir, dont les 2 corps ont également été rendus. Eh bien, aujourd'hui, la famille Bibas dit n'avoir reçu aucun détail des autorités israéliennes sur la façon dont ils ont été tués en captivité, en précisant seulement que Shiri et ses 2 enfants ont été, je cite, assassinés par leurs ravisseurs et qu'il faut que le monde sache qu'il s'est agi d'un meurtre, dit encore ce communiqué publié donc par les proches de la famille Bibas. Je précise encore que le Hamas a dénoncé cet après-midi des mensonges sans fondement depuis que des dirigeants israéliens laissent entendre que les 2 petits frères Bibas ont été tués à Gaza, je cite, par des terroristes à main nue. Fin de citation. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur dénonce un crime odieux après l'attaque commise hier soir à Berlin. Un touriste espagnol de 30 ans a été grièvement blessé à coups de couteau dans l'enceinte du mémorial de l'Holocauste, frappé par un Syrien de 19 ans qui a été interpellé 3 heures après l'attaque. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Berlin. On a d'ailleurs ce soir des précisions, non seulement sur le profil, mais aussi les motivations du suspect.
Oui Eric, depuis plusieurs semaines, l'homme voulait tuer des juifs. Voilà ce qu'il a expliqué aux enquêteurs. Ce Syrien de 19 ans a donc choisi l'emblématique mémorial de l'Holocauste dédié aux juifs exterminés par les nazis pour passer à l'acte et frapper avec un couteau de chasse et une lame de 20 cm à la tête et au cou un touriste espagnol. Le suspect est arrivé en Allemagne en 2023 en tant que réfugié mineur non accompagné. Il disposait d'un titre de séjour et vivait dans un centre d'hébergement de Leipzig. Dans son sac à dos, les policiers ont trouvé l'arme du crime, un tapis de prière et un Coran, ce qui laisse supposer une motivation religieuse selon le communiqué publié tout à l'heure par le parquet de Berlin.
Sébastien, demain auront lieu des élections législatives cruciales en Allemagne. La droite libérale de la CDU est favorite, l'extrême droite de l'AFD à l'affût, les sociodémocrates du SPD annoncés en repli. Eh bien, jusqu'au bout de cette campagne, les questions sécuritaires liées à l'immigration auront été prioritaires.
Oui, la sécurité intérieure, l'immigration, les deux sujets qui éclipsent en fait tous les autres dans la dernière ligne droite de cette campagne. Après une série d'agressions commises par des réfugiés ou des demandeurs d'asile, 6 attaques, 12 morts, plus de 300 blessés depuis le mois de mai l'année dernière. Friedrich Merz, le candidat conservateur, largement en tête, vous l'avez dit, promet de rétablir la loi et l'ordre avec un virage à droite, des contrôles permanents aux frontières, le renvoi de tous les étrangers sans papier et la baisse des aides aux migrants. Il s'en prend au laxisme des années Scholz et dénonce 10 années de politique migratoire erronée. Il remet donc en cause également la politique d'accueil de l'ancienne chancelière Angela Merkel, elle aussi membre pourtant du Parti conservateur. En deuxième position dans les sondages, l'AFD, l'extrême droite, réclame de son côté tout simplement la fermeture des frontières. L'AFD est créditée ce soir de 20-21% d'intention de vote et pourrait donc doubler son score de 2021.
Sébastien Baer en direct de Berlin. Aux États-Unis, même le puissant ministère de la Défense n'échappe plus à la purge engagée par l'administration Donald Trump. Outre les récentes coupes budgétaires massives au sein du Pentagone, 6 responsables viennent d'être limogés. Et cela concerne même le plus haut gradé aux États-Unis, le général 4 étoiles Charles Brown. Il n'est autre que le chef d'état-major de l'armée américaine. À New York, Loïc Loury.
En novembre dernier, le futur nouveau patron du Pentagone évoquait déjà le nom de Charles Brown, estimant devoir se débarrasser, disait-il, de tout haut gradé associé à quelques politiques de merde pro-diversité, égalité et inclusion. Hier, le plus haut gradé de l'armée américaine a donc été écarté, lui qui avait été nommé par Donald Trump en 2020 à la tête de l'armée de l'air, premier afro-américain à accéder à la fonction. La tradition pourtant veut que le chef d'état-major reste en place lors d'un changement d'administration, mais c'était sans compter sur la purge tous azimuts engagée par Donald Trump contre ceux qu'il estime ne pas lui être fidèle. Au Pentagone, une poignée de hauts gradés ont ainsi été remerciés, comme l'amiral Lisa Franchetti, première femme à diriger la marine. Et ce n'est pas terminé, le président a réclamé des noms pour remplacer 5 autres hauts responsables de l'armée. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et Donald Trump, qui estime que son conseiller milliardaire n'est pas assez agressif pour réduire les dépenses publiques. Il parle d'Elon Musk, car il s'agit, dit Donald Trump, il s'agit désormais de sauver le pays, écrit le président américain sur son réseau social. Des nouvelles de l'état de santé du pape, selon le Vatican, état de santé du pape François qui reste critique. Dernier bulletin à l'instant du Vatican. 2 300 000 airbags sont dangereux en France et il faut les remplacer. Une enquête de Radio France révélait le mois dernier que sur les 30 accidents survenus en France, 28 ont eu lieu outre-mer et que parmi les 15 morts, 14 étaient aussi en Outre-mer. Le groupe Volkswagen a demandé cette semaine à plus de 250 000 clients français de ne plus conduire leur voiture. Il s'agit en fait de clients qui ne se sont pas encore rendus chez le concessionnaire et qui avaient déjà été avisés il y a un an. Eh bien, les airbags doivent donc être remplacés car le risque d'accident est bien réel. C'est ce que note Fabrice Godefroy. Il est expert mobilité environnement chez 40 millions d'automobilistes.
Il y a un gaz instable dans l'airbag et qui surdimensionne l'enclenchement de l'airbag. Donc normalement, vous avez le coussin d'airbag qui arrive et qui vous protège. Ils sont faits pour ça. Les airbags, ça marche très bien et ça a été prouvé depuis des années. Le problème, c'est que comme l'explosion est surdimensionnée, ça peut décoller des systèmes de métal ou de la cartouche qui permet de prendre le système d'airbag ou alors des boulons qui sont à l'intérieur du volant. C'est projeté au visage en fait de l'automobiliste et c'est là où il y a un risque. Et c'est là où il y a eu malheureusement les accidents. Aujourd'hui, vous avez un site internet qui est très très bien fait du ministère de la Transition écologique où vous avez une liste des constructeurs qui sont susceptibles d'avoir des airbags défectueux. Donc ça permet de se rendre compte un peu de savoir si on est concerné par le problème et si on a besoin véritablement de s'inquiéter ou pas. Et déjà, ça permettra de se rassurer au cas où.
Propos donc recueillis par William Delesseux. Et puis je vous renvoie au site du ministère de la Transition écologique si vous voulez retrouver le modèle des véhicules concernés. Le sport, après l'or ce matin chez les femmes, et bien l'argent cet après-midi pour les hommes. Les Françaises et les Français ont donc brillé aujourd'hui au championnat du monde de biathlon. Ça se passe en Suisse. Il s'agissait des épreuves de relais. Fin de parcours pour le magazine satirique ciné mensuel empêtré dans des difficultés financières. Son dernier numéro paraîtra le 5 mars. Bonsoir Juliette Penn.
Bonsoir.
Le journal était hebdomadaire en 2008, mensuel en 2011. Et bien au final, il n'aura été que de longues années de galère.
Oui, dès ses débuts, le journal fait des appels aux dons pour survivre et ça n'a jamais cessé. Ciné mensuel, c'est ce journal né d'une polémique. Il est créé par le dessinateur ciné de son vrai nom, Maurice Sinet, un ancien de Charlie Hebdo, évincé de la rédaction après des accusations d'antisémitisme pour lesquelles il a été relaxé. Le mensuel tente de trouver son public avec des unes provocatrices, des pages satiriques et dessinées, avec la contribution d'humoristes comme Constance et Charline Vanhoenacker qu'on connaît bien à France Inter. Mais en 15 ans d'existence, les ventes de ciné mensuel ont été divisées par deux, tournant aujourd'hui autour de 10 000 exemplaires, alors que les coûts, eux, augmentent. Résultat, le journal se vend à perte, entre 16 et 17 000 euros de déficit chaque mois, selon sa directrice Catherine Velsinet. Impossible à combler pour le mensuel. Totalement indépendant, il tire ses recettes uniquement de ses abonnements et de ses ventes. Aucune publicité dans ses pages. Ciné mensuel, le journal qui fait mal et ça fait du bien, disait sa devise, laisse derrière lui 5 salariés, une trentaine de dessinateurs et des journalistes pigistes.
Voilà, et dernier numéro de Ciné mensuel prévu donc le 5 mars. Il comptera une quarantaine de pages. Je vous rappelle, avant de refermer ce journal, cet acte terroriste islamiste, sans aucun doute, selon Emmanuel Macron, après l'attaque au couteau cet après-midi à Mulhouse, il y a un mort, 3 policiers municipaux blessés, dont un grièvement, le président Macron, qui écourte du coup sa visite au salon de l'agriculture. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec demain un temps calme et sec.
Oui, alors on aura quand même quelques résidus de la perturbation d'aujourd'hui qui va un petit peu traîner en matinée sur l'est du pays, avec quelques faibles averses du sud-ouest vers l'Alsace-Lorraine. Le temps sera déjà plus sec à l'ouest. On aura aussi pas mal de grisailles sur le nord du pays et dans les vallées du sud-ouest. Elles vont se dissiper, les éclaircies revenir dans l'après-midi, avec un temps qui deviendra de plus en plus sec à l'est. On aura le retour de la neige également en altitude sur les Alpes. Une journée de transition un petit peu plus calme, mais avec déjà une nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest. Le ciel va se couvrir en cours d'après-midi et les premières pluies toucheront la Bretagne et le Cotentin dans la soirée. Le tout accompagné de bonnes rafales de vent.
Et les températures seront encore assez douces.
Oui, avec des maximales qui iront encore de 11 à 16 degrés jusqu'à 17-19 degrés du sud de la Garonne jusqu'en Corse. Quant aux minimales, elles baissent un petit peu. Elles seront comprises entre 3 et 9 degrés le matin, 8 à 12 dans le sud-est.
Les prévisions de Céline Dacosta.